Hora est, comme disaient les anciens. À titre d'apéritif, en ce qui concerne l'examen, est-ce que c'est possible de maintenir la date proposée le 29 janvier à partir de 17h? Donc si c'est pas le cas, on négocie après le cours. J'aimerais bien ne pas devoir venir pour chaque étudiant, enfin, là, pas trop, mais... Donc, le jeudi 29 à 17h. Voilà, nous voilà pour notre dernière soirée consacrée à la liturgie, en tout cas ce semestre dans ces lieux. Et donc, comme annoncé dans le folder résumant ces conférences, nous allons traiter de la rencontre de Dieu dans la liturgie. Donc, c'est un sujet aussi vaste qu'un océan. C'est toujours très agréable pour l'enseignant parce qu'il peut y insérer une série de choses très variées, puisque en fait la rencontre de Dieu était bien entendu sous-jacente à toutes nos rencontres, toutes nos soirées depuis le début du semestre. Il y aura trois points. D'abord, une introduction, Pâques, les temps derniers où nous sommes, et ensuite je terminerai par faire Église. Comment ne pas parler dans un cours sur la liturgie de la récente rencontre des jeunes à Bruxelles organisée par les frères de Thésée qui ont permis à, on entend différents chiffres, mais en disons 40 000 jeunes de célébrer une liturgie sans doute neuve et originale pour la plupart d'entre eux. S'il y avait immanquablement l'un ou l'autre touriste parmi ces pèlerins de la confiance, et bien qu'on enregistre, je ne résiste pas à vous raconter quelques fioretti. Donc je logeais un jeune très sympa, handicapé, et quatre Serbes. Les négociations avec eux étaient relativement, la marge de négociation était ténue, c'était quatre armoires à glace. Et je me demande s'ils sont allés une seule fois au Ezel, en tout cas à retrouver les serpentins et les confettis dans mes poubelles, plus mon dentifrice vidé et mon gel douche. Je me suis dit qu'ils ont sans doute passé un bon moment, mais pas aux mêmes endroits. Mais voilà, je pense qu'il y en a qui l'ont fait bien. Et alors je raconte cette autre Fioretti qui est quand même bien plus sympa, que j'ai entendu à la journée des Belges. Et donc, c'est des familles qui racontaient leur expérience d'accueil de jeunes. Et une famille qui a dit, nous avons reçu quatre Slovaques. Et elle tenait absolument à ce que ce soit elle qui nous prépare chaque matin le petit déjeuner. Je trouvais ça assez mignon, si je puis me permettre ce terme. Donc, il y a des expériences très heureuses. Et l'idée n'est pas de vous parler, bien sûr, de ces Fioretti, mais bien de quelques échos que j'ai eus de réactions à propos des liturgies organisées par les frères de Thésée au Ezel. Et donc, s'il y avait immanquablement quelques touristes, il y avait également un certain nombre de jeunes, bien sûr, qui étaient déjà venus à ces rencontres annuelles autour de la nouvelle année, et ou d'autres qui connaissaient les prières à Thésée même. Mais il y en a quand même beaucoup, beaucoup, je pense, et certainement parmi les adultes, donc les familles qui accueillaient ces jeunes, qui ont découvert ces liturgies de Thésée. Et en fait, quand on interroge l'un ou l'autre, donc ma collecte d'infos est très éclectique, sur leurs impressions et leurs émotions, donc quand j'interroge ces nouveaux jeunes ou adultes, ce qui est toujours ressorti dans les échos que j'ai eus, c'est outre l'accueil bien sûr, mais c'est foncièrement le climat de la prière commune. Et beaucoup considéraient cette prière commune comme le moment fort de ces journées, en particulier, et je ne vous apprendrai rien, les 8 minutes de silence qui étaient prévues à chacune des prières, tant au Ezel que dans les paroisses qui organisaient une prière du matin. Et c'est très frappant de voir à quel point jeunes et moins jeunes ont été saisis par ce temps de silence. C'est du reste très souvent une réaction qu'on a lorsqu'on accompagne des jeunes à Thésée et qu'on leur demande ce qu'ils pensent à la fin de leur semaine de séjour. C'est souvent cela qui ressort aussi. Alors, En réalité, ce silence, ben, c'est tout à fait indiqué d'avoir le GSM à ce moment-ci. Et donc, ce silence, en fait, il est, comme vous le savez, ce temps de silence dans la prière de Thésée, il est amené, plus précisément, il est nourri par la parole de Dieu. Une parole de Dieu tantôt proclamée, tantôt chantée, ou encore une parole de Dieu interprétée par la tradition, et c'est notamment les quelques mots des fameux chants de Thésée, dont plusieurs sont empruntés à saint Augustin, mais pas tous, ou à sainte Thérèse d'Avila, d'autres. Et donc c'est, si vous voulez, la parole de Dieu proclamée, la parole de Dieu chantée, les psaumes, et puis la parole de Dieu méditée au travers de la tradition. Autrement dit, pour reprendre une expression très à la mode, ce fameux silence des liturgies thésiennes, ce silence est cadré. Il est cadré par une assemblée, il est cadré par un lieu de recueillement, il est cadré par un rituel, en tout cas un déroulement dont on connaît les séquences à l'avance, et c'est important pour se sentir bien dans le silence. Il est cadré aussi par, bien sûr, un choix d'extrait biblique. Ce silence est enfin cadré par un agir commun, et cet agir commun, c'est prier ensemble. Ce temps de prière silencieuse à Thésée, ou dans la liturgie de Thésée, va acquérir une dimension proprement liturgique, qui va en fait, si vous me permettez l'expression, anoblir la prière individuelle en prière d'église. Et il faut ici rappeler en effet la différence entre la prière personnelle et la prière liturgique. La différence entre ces deux formes de prière, personnelle et liturgique, cette différence ne tient pas du tout même, à la qualité de la prière, ni à son intensité, ni même à sa ferveur, et pas non plus aux répercussions de la prière sur mon existence. Quelle est la différence entre la prière personnelle et la prière liturgique ? Ce sont ses modalités. La liturgie est par définition l'action, l'activité d'une assemblée, à l'intérieur de laquelle vient s'insérer ma prière personnelle. La prière personnelle en dehors de la liturgie peut être immédiatement axée, branchée, et elle l'est souvent, sur mes préoccupations du moment, et dans le meilleur des cas, dans une prière qui est branchée sur mes espérances. Même s'il est souhaitable que cette prière, bien sûr, débouche sur une authentique rencontre de Dieu. Mais la prière liturgique, habituellement, ne part pas de mes préoccupations personnelles. Et c'est sans doute une des causes de la difficulté de beaucoup d'entrer dans la prière liturgique. Parce que lorsque j'entre dans la prière liturgique, eh bien, alors que j'ai envie de danser, la liturgie m'invite à proclamer ou à chanter « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. » Ou alors, quand j'ai envie de pleurer, j'aurai envie de pleurer, eh bien, je dois chanter les louanges du psaume 150, par exemple. Autrement dit, la liturgie ne tient pas immédiatement compte de mes émotions et de mon histoire du moment. C'est une des difficultés face à la prière liturgique, c'est aussi une de ses grandes richesses, si on veut, si je puis me permettre, grandir dans une authentique vie de prière. Car le pont aux ânes, en termes géométriques, de la vie de prière, ce sont nos sentiments et nos émotions, notre ressenti. C'est le premier grand obstacle, bien sûr. Vous rappelez toute l'insistance novatrice de Don Odon Casel lorsque il aborde et il estime que désormais il faut aborder la liturgie en tant que célébration. Casel affirme que la liturgie est d'abord et avant tout une action sacrée. Il s'y passe quelque chose. Et lorsque, dans sa thèse et dans tous ses travaux, Casel va souligner l'importance du terme « mysterium » dans la liturgie ancienne, il va en fait redécouvrir, même si, au niveau strictement wissenschaftlich, au niveau scientifique, la démonstration en tant que telle est fausse, mais l'affirmation est correcte, c'est que, en soulignant à ce point l'importance de mysterium dans la liturgie ancienne, Casel a redécouvert que la liturgie est foncièrement une action divine, d'abord cachée, puis révélée par le Christ, dans l'intention, révélée dans l'intention de faire participer les célébrants à la réalité célébrée elle-même. C'est ça fondamentalement dans la compréhension paulinienne du terme mysterium. Donc c'est une réalité qui au préalable est cachée et qui maintenant est manifestée. Donc ce rappel pour souligner quatre fois au bic rouge, ou si vous préférez au marqueur Action d'Amiens, puisqu'on va bientôt les vendre, ces fameux bic Père d'Amiens, la liturgie est d'abord une action et une action de Dieu. Vous allez me dire, comment est-ce qu'il peut utiliser tant de salive pour une telle évidence? Si pour vous, honnêtement, concrètement, pratiquement, chaque fois que vous célébrez une liturgie, si pour vous il s'agit effectivement d'une action de Dieu, Deo gratias. Mais la difficulté vient de ce que la liturgie implique une réaction de l'homme, elle implique une organisation, elle implique un rituel, elle implique de tels éléments dont on a énuméré une partie tout au long de ce cours. En fait, il n'est pas rare que cet énoncé foncier et fondateur de la liturgie, à savoir qu'il s'agisse d'une action de Dieu, que cela soit davantage oblitéré. Et Saint Benoît, qui par sa règle des moines a été un maître à prier pour des générations et des générations d'Européens et plus tard de tous les continents, Saint Benoît parle de la liturgie avec une expression étonnante que vous connaissez sans doute, opus dei. Littéralement, l'action, le travail de Dieu. Alors, il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur la signification et l'interprétation de cette expression « opus dei ». Mais pour faire un tout petit peu le pédant, on pourrait dire que ce « dei » est un génitif épézégétique, c'est-à-dire un complément déterminatif, disent les exégètes, qui explique le nom qu'il détermine. Et donc, œuvre de Dieu, action de Dieu, autrement dit, c'est véritablement Dieu qui vient de part en part qualifier l'action dont s'agit. L'œuvre de Dieu, c'est-à-dire, c'est Dieu qui en prend l'initiative. C'est fondamental, puisque nous sommes dans une soirée peut-être un peu plus explicitement spirituelle que les autres, c'est un des grands lieux qui nous aide à éviter le découragement dans la prière. C'est de chaque fois nous rappeler qu'en réalité, si nous sommes là, en train de prier, ou désireux de prier, c'est toujours une réponse. Dieu en prend l'initiative. Et donc, l'œuvre de Dieu, c'est Dieu prend l'initiative. La liturgie n'est pas d'abord fait d'un langage codé qui serait constitué de symboles et de signes sacrés qu'il faudrait décrypter. La liturgie n'est pas d'abord un ensemble de codes. La liturgie est d'abord le lieu d'une rencontre. Et qui y rencontre-t-on ? Le ressuscité. Et le ressuscité nous y rencontre pour que son corps devienne de plus en plus Église, on va y revenir. Cette dimension ecclésiale de la rencontre du ressuscité et l'importance de cette dimension-là explique également l'importance de l'action de l'Esprit-Saint. C'est le grand acteur de la liturgie. C'est lui qui fait renaître. C'est lui qui sanctifie le pain et le vin. C'est lui qui fait de nous un seul corps. C'est lui qui est à l'œuvre en chacun de nous et qui par nous fait l'unité. Voilà en guise d'introduction. Alors je voudrais ensuite dans ce développement, à propos de la rencontre de Dieu dans la liturgie, je voudrais revenir sur Pâques. Vous allez me dire, mais il vieillit le prof, hein, il radote, hein, c'est une répétition. Eh bien, j'espère que non. Parce que, bien sûr, vous allez le voir, le crucifix et le vendredi saint ne sont pas évacués. Mais ce qui est véritablement de caractéristique de notre foi, dit saint Paul, c'est la résurrection de Jésus. Saint Paul a des mots extrêmement forts en grec. Hein. Il dit, sans elle, notre foi est poubelle, en fait. Elle est vide, il n'y a rien dedans. Quoi. On regarde et il n'y a rien. Et c'est vrai également pour la liturgie. Sans la résurrection, il n'y a rien dans la liturgie. L'action de Dieu par excellence dont la liturgie nous fait bénéficier, c'est, affirme Vatican II, le mystère pascal. Romains chapitre 8 verset 34 par exemple, Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Qui intercède pour nous. Je vous rappelle que toutes les formules conclusives dans la prière liturgique soulignent par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne, etc. Autrement dit, les finales des prières liturgiques, ce qu'on appelle en termes techniques l'eucologie, les finales de l'eucologie chrétienne ne réfèrent pas d'abord au mérite d'une action passée, fût-elle du Christ, mais les finales de l'eucologie réfèrent à ce que le Christ fait présentement. Non pas le petit Jésus de la crèche, mais le Christ ressuscité, qui est à la droite du Père. Et toutes les formules liturgiques se terminent en invoquant son agir actuel auprès du Père et de son Église, où il fait quoi ? Il intercède pour nous. Il fait ça. Ça n'est pas seulement une image, ça n'est pas seulement une allégorie, ni non plus une espérance. C'est un fait qui vaut plus qu'en leur mère, c'est bien connu. Et donc, la liturgie, à proprement parler, naît à Pâques. Et j'ajouterai, de façon un peu taquine, dans l'auberge d'Emmaüs. Et pendant près de 150 ans, la liturgie chrétienne se limitera au dimanche. C'est chaque semaine, Pâques, au jour du Seigneur, dominical. Et le culte de l'Église, j'y ai insisté la fois dernière, il est né à Pâques, il est né de Pâques, et il est né pour célébrer Pâques. Dans les débuts de la liturgie chrétienne, le dimanche était la fête unique, sans autre dénomination caractéristique que « jour du Seigneur ». Et il faudra attendre, comme je l'ai rappelé la fois dernière, le milieu du IIe siècle, pour voir apparaître progressivement, ça et là, chaque année, un grand dimanche, comme célébration annuelle de Pâques. Et comme ce grand dimanche est un grand, grand, grand dimanche, on va le faire précéder d'une préparation, la Semaine Sainte, qu'on va faire précéder elle aussi d'une préparation, le carême, et auquel on va donner une suite, on appelle le temps pascal, donc qui prépare à la Pentecôte. Donc, si on veut aller à la racine des choses, à la fois d'un point de vue historique et d'un point de vue théologique, ma foi, le concours de ces deux disciplines est toujours le bienvenu, Pâques est véritablement central. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Pâques ? Qu'est-ce qui s'est passé à Pâques ? Les historiens nous disent, relayés par les auteurs du Nouveau Testament, que Jésus a vécu dans la confiance en Dieu, tout au long de sa vie, jusqu'au bout, jusque y compris un sentiment d'abandon sur la croix, et en tout cas, dans l'échec apparent, à vue humaine, de sa mission. Il n'y a quasiment plus personne. Et face à lui, des cris. Jésus meurt dans le délaissement, peut-être, disent certains spirituels, dans la nuit de la foi, mais aussi dans une confiance absolue en son Père. On peut ne rien sentir et garder sa confiance. Jésus vit sa mort comme une connivence intime avec le projet de Dieu à l'égard du péché des hommes. Par sa résurrection, il découvre que Dieu, son Père, n'est pas un Dieu qui écrase le pécheur, mais c'est un Dieu qui déteste le péché. Et Jésus découvre que la seule manière, quand on est Dieu, de sauver le pécheur, c'est de l'aimer jusqu'au bout, c'est de ne rien faire pour lui forcer la main. Et c'est la raison pour laquelle Jésus n'accentue pas son recul par rapport à ses ennemis. Et il va résumer toute son existence dans ce geste par lequel il se livre, et en se livrant ainsi, j'emprunte ceci à Hans-Urs von Balthasar, Jésus s'interdit de disposer à l'avance de ce que Dieu pourrait faire de quelqu'un qui se donne ainsi. En se livrant comme il le fait, Jésus ne fixe pas l'agenda de Dieu. Il ne lui dit pas « tu dois faire comme ça ». Une tentation qui est quand même très forte. Jésus s'interdit de disposer à l'avance de ce que Dieu pourrait faire avec celui qui se donne ainsi. De sorte que la résurrection de Jésus apparaît, et d'abord à ses propres yeux, comme la réponse de Dieu à cette confiance que Jésus a voulu lui témoigner jusqu'au bout. Et s'il est vrai que la liturgie est norme pour la foi, lex orandi, lex credendi en latin, la norme de la prière norme la foi, eh bien, on peut croire que Jésus vit sa résurrection au matin de Pâques comme un émerveillement, comme un éblouissement. Il découvre l'extraordinaire fidélité de Dieu par-delà la mort, une fidélité qui va exaucer la confiance de Jésus au-delà de toute espérance. Et c'est l'intuition fulgurante développée par ce qu'on appelait dans le temps l'introïte de la messe de Pâques. Quelques-uns parmi vous l'ont chanté en grégorien en latin, donc je ne résiste pas à la tentation, je le traduirai ensuite. Resurrexi et aduc te cum sum, alléluia. Posuisti super me manum tuam, alléluia. C'est une citation du psaume 138. Je suis ressuscité et je suis encore avec toi. Avec toi, alléluia. Sur moi, tu as posé ta main, alléluia. Au fond, si on suit cet adage, lex orandi, lex credendi, la réaction de Jésus au moment de sa résurrection aurait été un moment d'émerveillement en retrouvant son mouvement qui le caractérise par rapport au Père. Ce que saint Jean, au début du prologue, exprime avec des mots bien à lui, et le Verbe était vers Dieu, et le Verbe était tourné vers Dieu. Et donc, ce mouvement même vers Dieu, dont Jésus a voulu vivre tout au long de sa vie terrestre, et qu'il retrouve au matin de Pâques, qui suscite son émerveillement, ce mouvement d'émerveillement qui implique un total détournement de soi pour au profit d'un total tournement vers Dieu, cela a un nom, ça s'appelle l'adoration. C'est ça l'adoration, je crois. Revenons à notre casquette d'historien. L'historien doit prendre acte d'un changement de comportement des apôtres peu de temps, très peu de temps après la mort de Jésus. Il s'est passé quelque chose dans la vie des apôtres, un facteur X, à partir de quoi ils s'en sont venus à parler de la résurrection de Jésus. Car en fait, que voit l'historien? Ils sont claquemurés, ils sont terrés dans une pièce dont ils ont verrouillé, au propre comme au figuré, portes et fenêtres. Et lorsque on leur demande « Mais qu'est-ce qui vous a amené à passer de votre enfermement dans un silence accablé à une annonce assurée de la résurrection ?» Ils disent tous, hein, « Il est apparu ». Il parle d'apparition pascale. Or, quand on examine les récits des apparitions pascales, ce qui frappe dans le langage utilisé pour décrire leur expérience, c'est que cette apparition, ces apparitions, se manifestent toujours comme une réalité qui survient de façon inattendue et inespérée. Et donc, un trait de grande, grande gratuité. Et cette caractéristique de gratuité, qui caractérise de part en part ce que nous appelons apparition pascale, cette caractéristique de gratuité se manifeste dans le terme technique utilisé en grec par les apôtres pour rapporter ce qui s'est passé. Ils disent, en grec c'est « ofte », c'est des Wallons parmi nous, c'est facile à retenir, « ofti ». Et donc, on traduit habituellement cet aoriste passif du verbe « orao » voir, « il a été vu », d'où l'expression « apparition pascale ». Mais, quand on va regarder l'étude désormais classique de Xavier Léon Dufour, « Résurrection de Jésus et message pascal », un livre déjà ancien, Léon Dufour affirme que la traduction correcte de « ofte », ce n'est pas « il a été vu », mais bien « il se fit voir de Képhas ». Il se fit voir, il se fait voir. Et Xavier Léon Dufour trouve des parallèles dans l'Ancien Testament où Dieu se fit voir à Abraham, où Dieu se fait voir à Moïse, certes de dos, mais il se fait voir. Et donc, cette forme verbale grecque « ofte », hein, pardonnez-moi d'être si technique, mais je vais arrêter cela dans un moment, mais j'y insiste parce que, à travers cette forme verbale grecque, on voit que toute l'initiative se trouve, l'initiative de l'action, se trouve en fait ailleurs que chez le sujet voyant. C'est ça qui est important à bien voir. C'est que la forme verbale grecque souligne que l'important dans l'action, ce n'est pas le sujet qui voit. L'expression « se faire voir » déborde largement l'aspect sensible que beaucoup de commentateurs ont cru pouvoir déceler dans les récits d'apparition pascale, et certains disent que c'était pour souligner la corporéité de Jésus, mystérieuse mais réelle. En fait, celui qui apparaît ne se montre pas d'abord et avant tout comme objet à voir, mais comme quelqu'un qui engage une relation. C'est très caractéristique des récits d'apparition. Jésus se fait voir, il prend l'initiative, gratos, pour créer un lien. Et cette relation qui est engagée, c'est une parole à entendre, voire une mission à accueillir. Et donc, les auteurs du Nouveau Testament veulent souligner que c'est le ressuscité qui a l'initiative, c'est lui qui intervient. Dans tous les récits des apparitions pascales, c'est lui qui conduit l'action. Il prend l'initiative de se manifester, il pose les gestes de le ressuscité, il prononce les paroles, il commente les actions qui vont en fait rendre possible son identification. C'est lui qui conduit, c'est lui qui tient le volant de part en part. Et les bénéficiaires de ces actions identificatrices ne vont pas manquer de s'en apercevoir, puisque ils reconnaissent Jésus en cela même qu'il le découvre à la source des événements qu'il vivait. Tout vient de lui. Il est donc bien vivant, il est donc présent dans l'absence. Autrement dit, dès le matin de Pâques, dès les premières apparitions, on est totalement dans le registre du don, le don d'une présence. Alors, sur la nature et le déroulement des apparitions, sur la façon d'être du ressuscité et de ce qu'on penserait être sa personnalité nouvelle, tous les récits, ceux des évangiles et ceux des actes des apôtres, sont hélas d'une brièveté étonnante. Et en dépit de leur ampleur, les deux récits développés, à savoir les disciples d'Emmaüs, Luc chapitre 24, et le récit autour de la mer de Tibériade, Jean chapitre 21, même ces deux plus longs récits demeurent dans la ligne des récits plus simples qui visent en fait à rapporter la soudaine présence du ressuscité ainsi que quelques mots du ressuscité qui fixent l'avenir des disciples qui les envoient en mission. Et cette discrétion étonnante comporte une donnée essentielle, c'est ceci. La résurrection de Jésus ne fait pas apparaître un personnage nouveau, mais celui qui ressuscite est exactement le même que celui qui a été mis à mort. Connaître le ressuscité, c'est reconnaître en lui Jésus le Nazaréen, le crucifié, qui du reste peut encore montrer ses plaies. Et ceci est tout à fait décisif dans le message pascal. Et vous allez voir arriver à la liturgie. Pas de connaissance du ressuscité sans cette condition préalable, à savoir être au fait de tout ce qui concerne Jésus et son histoire et le prendre en compte. En effet, les récits des apparitions, je termine par là le chapitre sur Pâques, le récit des apparitions souligne fortement que le « il se fit voir » ne pointe pas, ne vise pas l'acquisition d'un nouveau savoir sur Jésus. Pourquoi Jésus apparaît-il ? Non pas pour qu'on connaisse davantage de choses sur lui. Mais la pointe, comme disent les exégètes des apparitions pascales, c'est la découverte de sa présence. Souligné aussi quatre fois au bic rouge avec un marqueur d'Amiens. Jésus était là, mais on ne savait pas que c'était lui. Et au terme de l'apparition, les yeux s'ouvrent et on le reconnaît. Et alors, aussitôt reconnu, Jésus disparaît. Soit il disparaît, soit il ordonne à Marie-Madeleine de ne pas le retenir, parce que, dit-il, il n'est pas encore remonté vers son père. Donc, l'apparition pascale est de soi fugitive, car sa fonction est de conduire à une réalité nouvelle. À savoir, Jésus n'est pas enseveli dans le passé, il appartient à notre présent. Conclusion, le connaître, comme dit très joliment saint Paul. Il s'agit de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection. C'est dans les Philippiens, je crois. Donc, connaître le ressuscité, c'est plus que de rassembler des souvenirs. C'est le rencontrer présent. Où ? Dans la liturgie. Dans la parole de Dieu. Quand j'ai dit que je termine le paragraphe sur Pâques, c'est pas tout à fait exact. Je termine le paragraphe sur ce que nous disent les apparitions du ressuscité. Je dois maintenant continuer la réflexion sur Pâques avec un autre angle d'approche en vous parlant, entre guillemets, les temps derniers où nous sommes. Une petite parenthèse pour ceux qui s'intéressent à l'exégèse. Et l'exégèse d'un point de vue où on privilégie l'histoire, c'est que, en fait, il y a, je vais rapidement terminer cette parenthèse parce qu'on peut en parler longuement, il y a, si vous voulez, deux grandes traditions, deux grands faisceaux, deux grandes lignes pour approcher le mystère de la résurrection de Jésus. Soit les récits, on vient de le faire, les récits des apparitions pascales, et l'autre grande branche de la tradition, est-ce que quelqu'un a une idée ? C'est ce qu'on appelle le kérigme. C'est l'annonce de Pâques. Vous avez d'une part les récits des apparitions, essentiellement dans les quatre évangiles. Et puis vous avez à côté de cela, dans les plus anciennes couches littéraires des Actes des Apôtres, ce qu'on appelle le kérigme, donc la substantifique moelle de l'annonce chrétienne, hein, l'annonce. Et dans l'annonce, ce qui est intéressant, c'est que on ne dit pas simplement le fait, mais on y donne également la signification du fait. Je crois déjà avoir dit ça ici, parce que c'est un grand dada. Quand vous affirmez qu'il est vivant, ça n'est pas encore une affirmation spécifiquement chrétienne. Qu'est-ce qui manque ? C'est pourquoi est-il vivant ? C'est pareil pour la... Si vous dites « il est mort sur la croix », vous n'énoncez pas une affirmation chrétienne. Le chrétien dira « il est mort sur la croix pour nous et pour notre salut ». Donc c'est l'événement et le sens de l'événement. C'est pareil pour la résurrection. Et donc, pour moins mal comprendre, pour mieux comprendre la résurrection, la branche dite kérigmatique, celle qui cherche à dire le pourquoi la résurrection, à travers l'annonce de la résurrection de Jésus, est bien entendu très intéressante. Alors, si on suit cette branche-là, hein, celle de l'annonce, dès les origines, la résurrection de Jésus est présentée comme une action de Dieu. Je vous rappelle que dans le Nouveau Testament, quand nous avons la mention « Otheos », donc « Dieu » avec un article, il s'agit toujours, enfin dans 9,8 cas sur 10, explique Rahner, il s'agit toujours de ce que nous appelons le Père, dans le Nouveau Testament, « Otheos », pas dans la Septante. Et donc, dès les origines, la résurrection de Jésus est présentée comme une action de Dieu. Le sujet de la phrase, ce n'est pas le Christ, mais c'est Dieu. Et Dieu qui agit non pas en fait sur le Christ, mais il agit sur Jésus de Nazareth. Que Dieu va faire Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 2, 36, si ma mémoire est bonne. Donc la résurrection, c'est une intervention divine dans l'histoire des hommes. C'est Dieu qui agit. Donc, quand j'entends, ça me fâche, hein, quand j'entends des affirmations, parfois en chair de vérité, que l'histoire n'a rien à dire sur la résurrection, c'est faux. C'est dramatique d'entendre des affirmations pareilles. Donc, l'historien ne peut pas démontrer le comment de la résurrection. Mais l'historien, je vais vite refermer cette parenthèse, mais je m'enflamme parce que ça m'énerve et que ça fait un dégât monstre d'entendre des affirmations pareilles. L'historien travaille avec des traces, il travaille avec des vestiges. Il ne travaille pas sur le fait brut, il n'est plus là. L'histoire passe, l'événement passe. Et donc, l'historien peut prendre acte, comme je viens de l'évoquer, notamment, qu'à un moment donné, les disciples de Jésus, morts de frousse, se sont profondément enfermés, accablés, retirés. Ils ont essayé de rentrer sous terre. Et puis, à un moment donné, l'historien constate que toute la peur a disparu et qu'ils vont sur la grande place en disant, vous savez, celui que vous avez crucifié, eh bien, Dieu l'a ressuscité. Alors l'historien a dit, cher apôtre, qu'est-ce qui vous a fait passer de votre frousse atterrée à cette annonce hardie ? Et l'historien a dit, l'apôtre m'a répondu qu'il m'est apparu, ou il s'est fait voir. Ça, c'est un travail d'historien, et qui va suivre avec ses outils, avec ses éprouvettes à lui. Alors, l'historien ne va pas dire ni le comment, et peu de choses sur le pourquoi. C'est le croyant qui prend le relais. Bien. Je ferme cette parenthèse. Si vous n'êtes pas d'accord, restez un moment après le break, on pourra en causer. Et donc, en fait, l'historien nous dit que, fondamentalement, la résurrection, hein, c'est une réalité qui concerne l'histoire, que Dieu agit dans l'histoire des hommes, et le croyant ajoute, en écoutant les Actes des Apôtres, que, en fait, la résurrection, c'est Dieu, le Père, qui agit. Et donc, dans cette perspective, Jésus, en aucun cas, ne se ressuscite lui-même. Ce n'est pas par l'énergie qu'il aurait en lui-même que Jésus se ressuscite. Vous allez me dire, monsieur, dans Saint Jean, il est marqué, j'ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de la reprendre. Et donc, à cela, Xavier Léon Dufour explique que il y a une évolution, donc je suis en fait ici aux origines des choses. Au départ, la compréhension, c'est fondamentalement une action de Dieu qui concerne Jésus. Une action de Dieu, je n'ai pas le temps de l'expliquer, que Dieu va opérer sur Jésus par celui que nous appelons l'Esprit-Saint. Donc l'action de Dieu à Pâques s'adresse en priorité à Jésus. Car cette action apparaît comme une réponse à la confiance de Jésus. Donc il se passe quelque chose de nouveau et d'inédit pour Jésus. Ouais, pardonnez-moi d'être aussi plat, mais donc il était cadavre en fait. Donc il ne faut pas être toujours trop réaliste, mais il y a quand même à bien réaliser que ce que Dieu fait à Pâques, on peut comprendre que ce soit considéré par les premiers croyants comme l'action par excellence avec un grand A. Et donc l'action divine qui ressuscite Jésus d'entre les morts ne le ramène pas à son existence terrestre. Ça c'est le cas pour Lazare. Et le pauvre Lazare, comme vous savez, ne vivra pas très longtemps. Puisque d'après saint Jean, comme ce miracle de Jésus est tellement étonnant, eh bien, les grands prêtres vont décider de supprimer Lazare aussi. Témoin gênant, rien de neuf sous le soleil. Et donc en fait, quand Dieu ressuscite Jésus, il ne le ramène pas à son existence terrestre. Les actes nous disent que la résurrection fait de Jésus le Seigneur et le Messie. Dieu va l'exalter au-dessus de toutes choses. Il va le faire siéger à la droite de sa puissance, jusqu'au moment où il aura mis tous ses ennemis sous le marchepied de son trône. Il va lui conférer le nom qui surpasse tout nom, etc. Bref, la résurrection pour Jésus inaugure un temps radicalement nouveau. Ressusciter Jésus, ce n'est pas ressusciter Lazare. Pourquoi est-ce que j'insiste tant? Parce que c'est fondamental pour notre liturgie, pour bien la comprendre. Par sa résurrection, Jésus entre dans un temps qui n'est pas hors de notre temps, mais c'est le temps de la fin. Eschaton veut dire ultime. Pour lui, le premier, l'eschatologie est déjà réalisée. Et donc, si j'avais été Denis le Petit, le fameux moine qui a bouleversé le calendrier romain et qui a remis le compteur à zéro à la naissance de Jésus en se trompant de quelques années, eh bien, il aurait dû mettre le compteur en l'an 33. Car le véritable début du temps chrétien, c'est pas Noël, c'est Pâques. Pourquoi à Noël, il entre dans notre temps, comme chantent de très nombreux hymnes. Mais à Pâques, c'est le temps nouveau qui, pour lui, est commencé le premier, et tel un premier de cordée à montagne, il nous entraîne avec lui. Ce que saint Paul a très bien compris par cette image superbe, il est le premier-né d'entre les morts. Et il n'est pas le premier pour dire « c'est moi, en bruxellois dit que nec, Jésus n'est jamais ». Donc en fait, tout ce que Jésus reçoit, c'est pour nous. Donc j'ai insisté dans une conférence précédente, le début de la sotériologie, de cette branche de théologie qui s'intéresse au salut, avant de découvrir historiquement que sa mort est pour nous, on a d'abord découvert que sa résurrection est pour nous. Et ensuite, dans cette ligne de pensée-là, on a découvert, à la lumière du serviteur souffrant d'Isaïe, entre autres, que sa mort aussi est pour nous. Donc Jésus, par sa résurrection, entre dans le temps de la fin. Et l'insistance de la communauté post-pascale, les tout premiers chrétiens, leur insistance sur l'eschatologie qui est déjà réalisée pour Jésus, leur insistance va transparaître par leur très forte accentuation de l'attente de la parousie. La parousie. Autrement dit, après avoir montré face à leurs auditeurs juifs que Jésus crucifié, que Jésus le crucifié était malgré toutes les apparences, en réalité, le Messie attendu, et qu'il a déjà été manifesté comme Messie par sa résurrection, la communauté primitive va s'attacher à la venue du ressuscité dans la gloire. Car pour les premiers chrétiens, c'est la conséquence nécessaire de la seigneurie de Jésus. Un jour, tous le verront comme Seigneur et comme Christ, même ceux qui l'ont transpercé, dit saint Jean. Et donc, il faut bien comprendre la nouveauté des temps qu'on appelle eschatologiques inaugurés par Jésus, il y a un seuil qui est franchi irréversiblement. Mais cet irréversible, cette nouveauté, n'est pas de nature à briser, à casser le lien avec la figure historique de Jésus. Car la nouveauté n'est pas absolue, puisque cette nouveauté-là ne supprime pas la réelle continuité entre Jésus le ressuscité et Jésus de Galilée. La nouveauté radicale de Pâques est et reste inséparable du crucifié. Car c'est Pâques et la nouveauté que Pâques apporte qui rend précisément cette mort-là, dernière, définitive, ultime, comprenez, universellement valable. En aucun cas, la mort comme telle ne peut apporter un salut. C'est la réponse que Dieu donne à cette mort qui est salutaire. Ce n'est pas la mort en tant que telle. Ce n'est pas non plus en régime chrétien l'amour que Jésus a mis dans cette mort. Car dans notre religion à nous, ce n'est pas le mérite qui sauve. C'est un don de Dieu. Et on est à nouveau dans le registre de la gratuité, qui est de part en part sur la liturgie. Quand on essaye de reconstituer les choses par leur genèse, qu'on essaie de voir les choses par leur début, très tôt, dans la pensée chrétienne, Jésus apparaît pas simplement comme le premier bénéficiaire de la grâce de la résurrection, mais aussi comme son médiateur. En effet, sa résurrection est pour nous, tout comme le don qu'il fait de son corps lors de la dernière scène et le don de sa mort. Et Paul, au chapitre 4 de la lettre aux Romains, a bien compris cela. Et ce n'est pas encore assez pris en compte, je trouve, dans la spiritualité occidentale. Voici ce que dit Paul. « Nous qui croyons en celui qui ressuscita d'entre les morts Jésus notre Seigneur. » Donc nous qui croyons dans le Père qui a ressuscité Jésus. « Jésus, virgule, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. » Qu'est-ce qui nous justifie pour Paul? La résurrection de Jésus. Ceux qui connaissent bien Paul ne s'en étonnent pas, car c'est Dieu qui justifie, pas nos œuvres, pour dire ça en terminologie luthérienne. La théologie actuelle a redécouvert que le salut biblique, je crois avoir déjà dit ça, mais c'est peut-être bon de rappeler ceci, le salut dont nous parle la Bible a d'abord été réalisé en la personne de Jésus. Oui, je te dis ça. Et donc, il faut s'identifier d'une manière ou d'une autre avec cette personne. Il faut entrer en communion avec lui pour avoir part à ce salut-là. Le salut en général, pour ma part, ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est le salut chrétien. C'est que même la mort ne pourra nous empêcher, ne pourra pas nous empêcher de garder nos liens avec Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni aucune créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, même pas la mort. Et donc l'insistance du Nouveau Testament porte bien sur la résurrection de Jésus comme inauguration véritable d'un temps nouveau, pour lui comme pour nous. Il s'y instaure depuis Pâques une création nouvelle, un nouvel ordre des choses, un nouveau lieu de communion. Jésus ressuscité, dans son état de ressuscité, cette condition-là est salutaire pour lui, ô combien, comme pour nous. Et le nouveau mode de présence de Jésus au monde en tant que ressuscité, d'où cela lui vient-il? Comment Jésus ressuscité est-il présent au monde? Par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit du ressuscité qui va permettre la célébration du mémorial du salut. C'est l'Esprit du ressuscité qui va nous permettre de faire mémoire du salut. C'est lui, l'Esprit, qui introduit les disciples dans ce qu'on peut appeler le temps de Pâques, qui théologiquement est le temps dernier, eschaton. Et donc, dans la résurrection de Jésus, se manifeste, ce qu'on pourrait dire avec un autre terme biblique, l'accomplissement du temps, non pas en termes de fin, genre happy end, mais en termes de vocation. C'est que, en fait, la résurrection de Jésus transforme le temps, non pas en y mettant fin, mais en nous appelant, en nous tirant à la consommation de l'eschatologie qui est déjà commencée depuis le matin de Pâques. Vous savez, cela a été dit plusieurs fois, du reste par différents intervenants dans cette conférence, que l'anamnèse, ce qu'on appelle l'anamnèse, cette pièce liturgique qui vient après ce qu'on appelait dans le temps la consécration, eh bien, en fait, l'anamnèse a été remise à l'honneur par le Concile Vatican II, enfin, par la réforme liturgique initiée par Vatican II, et l'anamnèse, fortement mise en valeur par le Concile, souligne que la liturgie ouvre constamment sur l'avenir. Donc la liturgie nous campe dans l'aujourd'hui de Dieu, hodie, en tenant compte, bien sûr, en nous arc-boutant sur ce que Dieu a fait dans le passé, mais la liturgie ne se limite pas ni au passé ni au présent. Elle nous fait sans cesse lever les yeux vers demain. Car la liturgie, toute liturgie, célèbre ce qui n'est pas encore. La liturgie est toujours en avance sur l'événement. Elle ne se contente pas de célébrer la vie, et encore moins le vécu. On perd son temps à vouloir célébrer la vie. C'est une grande tentation quand on fait notamment la pastorale de jeûne. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas intégrer ce qu'ils vivent, le plus possible. Mais célébrer ce qu'ils vivent, sans ouvrir, en se fermant dans ce qu'ils vivent, sans ouvrir précisément à cet avenir qui est caractéristique de la liturgie, est pour eux un grand manque à gagner, pour le célébrant aussi du reste. La liturgie anticipe constamment ce que la vie ne donne pas encore à voir ni à goûter. Et en fait, les étudiants de diété vont sourire ici. On va rejoindre ce qu'on appelle les quatre sens spirituels de l'Écriture, que on attribue au Père de l'Église, mais qui en fait, comme tels, ont été formulés par le Père Henri de Lubac. Et donc ces fameux quatre sens de l'Écriture, chers au Père de l'Église, hein, qui sont d'une part le sens littéral, hein, le sens doctrinal, le sens moral, et enfin le sens eschatologique, en termes techniques, on va parler du sens anagogique, et c'est de celui-là que je veux parler. Le sens anagogique, hein, en grec, anagogia, hein, ça vient de, en fait, monter, l'ascension. Anagogé, c'est l'ascension, c'est la montée. Hein. Et donc, l'anagogia invite à élever les cœurs. C'est le début de la pré-eucharistique, hein, c'est élevons notre cœur, c'est le début de la préface. Paul de Clercq qui a beaucoup insisté, même en élevant la voix, si vous vous rappelez. Hein. Élevons notre cœur. Hein. Et donc, en fait, l'anagogie invite à élever les cœurs pour nourrir notre espérance. Hein. Notre espérance de quoi? Que le mystère eucharistique s'accomplisse dans la Jérusalem céleste, tout en bénéficiant dès maintenant, tout de suite, hein, de ce que saint Paul appelle les arts, ou si vous préférez, les prémices. Hein, ou peut-être que les fiscalistes pourraient dire la compte, hein, de l'union définitive. Donc, dans l'anagogie, hein, il y a cette dimension très forte de tension, de vocation vers la consommation du mystère dans toute son étendue, dans la Jérusalem céleste, mais en même temps, il y a cette anticipation, si vous voulez, il y a ces prémices, ces arts, d'union définitive qui nous sont données dès maintenant. Alors, plus tard dans l'histoire de la spiritualité, on va parler à propos de ce qu'on appelle le sens anagogique, on va dire le sens mystique. C'est ça fondamentalement le sens mystique. C'est cette très forte tension, vocation vers la consommation plénière du mystère Jérusalem céleste, tout en bénéficiant déjà maintenant d'une forme de prémisse de l'union qui un jour sera définitive. Bref, pour clôturer cet alinéa, la liturgie est un des principaux terreaux ou si vous préférez, un des principaux oasis pour faire grandir notre espérance chrétienne. La liturgie est le lieu de ressourcement pour nourrir notre espérance chrétienne. Et Dieu sait si le monde aujourd'hui a besoin d'espérance. Pas de l'espérance en général, aussi tant mieux, surtout par temps de crise. Mais on a, comme chrétiens, nous avons vraiment, vraiment un immense besoin de redécouvrir la spécificité de l'espérance chrétienne. Et là, donc, dans mon ministère, ayant la joie de travailler avec plusieurs confrères africains, je reste quand même très émerveillé devant. On a le sentiment parfois que certains chrétiens africains ou africaines que je connais, je sens les auxiliaires apostolaux aussi, que, un peu comme Bélix, elles sont tombées dans la marmite quand elles étaient petites. Il y a une forme d'ouverture à l'espérance qui, pour ma part, me touche beaucoup et qui fait beaucoup de bien. Je referme cette parenthèse. L'espérance est toujours un combat, hein. Peggy l'a très bien montré. C'est jamais naturel. Il me reste 4 minutes pour mon dernier paragraphe, qui pourtant est un élément essentiel dans notre sujet, donc rencontrer Dieu dans la liturgie, et que j'ai intitulé « Faire Église ». Faire Église. Si Jésus n'est pas ressuscité, et donc si l'Esprit du ressuscité ne nous est pas donné, il n'est pas possible que le Christ nous convoque. Il n'est pas possible que le Christ nous adresse sa parole. Il n'est pas possible que le Christ nous fasse entrer dans le drame de sa passion en communion à sa chair spiritualisée depuis le matin de Pâques. Cette prière qui techniquement a reçu le nom d'épiclèse, cette prière insistante à l'Esprit Saint, l'épiclèse sur les dons qui vise plus directement à la consécration du pain et du vin, et l'épiclèse sur les fidèles qui vise la consécration des fidèles, tiennent ou tombent ensemble, les deux sont profondément unis. En fait, historiquement, l'épiclèse sur les fidèles, vous rappelez, c'est la première qui a existé. Avant d'invoquer l'Esprit Saint sur le pain et le vin, on a pris l'Esprit Saint sur les fidèles, sur l'Assemblée, pour que l'Esprit obtienne l'effet final de l'Eucharistie. Quel est le but ultime de l'Eucharistie et de la liturgie? C'est être à jamais unis les uns aux autres au cœur même de la vie de Dieu. C'est le but fondamental de la vie liturgique, être unis les uns aux autres au cœur même de la vie de Dieu. Et le Nouveau Testament en général, et Saint Paul en particulier, souligne fortement que la communion au corps du Christ et l'unité du corps ecclésial sont deux réalités qui en fait se compénètrent profondément. Les deux épiclèses soulignent clairement que l'Eucharistie n'est possible que grâce au don de l'Esprit du Ressuscité. Et l'action par excellence de l'Esprit Saint, comme le montre bien saint Augustin, c'est de nous unir à Dieu et de nous unir entre nous. L'Esprit est celui qui va nous unir entre nous et à Dieu, parce que au préalable, si la chronologie est possible au cœur du mystère trinitaire, au préalable, l'Esprit est leur lien à eux, du Père et du Fils, dit Augustin. Et donc c'est pour cela que c'est à lui que revient la mission d'unir tous les hommes entre eux et avec Dieu dans une communauté ecclésiale. Je dois terminer par ceci, en vous disant que si la liturgie est une rencontre de Dieu, et c'est le cas, si la liturgie est une rencontre de Dieu, elle nous donne de rencontrer Dieu en Église, c'est-à-dire à la fois en faisant Église et en même temps en se laissant porter par elle. C'est ça qui est difficile. C'est qu'à la fois activement, nous sommes invités au cœur de la liturgie à faire Église, mais en même temps à nous laisser porter par l'Église, c'est-à-dire à ouvrir les mains pour accueillir le don de Dieu toujours premier. Voilà, un grand merci pour votre présence, votre patience, et après le break, on aura l'occasion de poursuivre avec l'un ou l'autre, si vous le souhaitez. Je pense qu'il y a le stand des éditions d'IET est toujours, plutôt Lesius, je crois ça toujours là après le cours. Merci. C'est sympa, ça me change. Tout au long de la journée, j'avais une retraite avec 35 garnements de 15 ans professionnels. Et c'est pas la réaction que j'ai eue à la fin de la journée.